Brève encyclopédie du monde de Michel Onfray. Première année, Cosmos. Aujourd'hui, théorie du fumier spirituel.
Merci d'être là pour cette séance consacrée au fumier. Il s'agit du fumier, du vrai, de personne en particulier, mais de ce fumier que chacun connaît et qui est constitué avec les urines et les déchets des animaux, chose qu'on trouve dans les étables et dans les fermes. Et il se fait que nous serons nietzschéens jusque dans cette configuration, puisque Nietzsche disait qu'il n'y avait pas des objets philosophiques à proprement parler, mais des traitements philosophiques de tous les objets possibles et imaginables. Donc nous allons traiter philosophiquement du fumier, et plus particulièrement du fumier spirituel. Car il y a des fumiers spirituels. Je ne songe à personne en particulier. Mais ce sera l'occasion pour moi de faire une séance, de consacrer une séance à l'anthroposophie, à Rudolf Steiner. Ça ne vous dit peut-être pas forcément grand-chose, mais en revanche, à la biodynamie, ce qui vous dit de toute façon quelque chose, parce que vous vous êtes toujours trouvé dans un restaurant où on vous aura vanté les mérites des vins bio, qui sont parfois biologiques et qui peuvent être aussi biodynamiques, ce qui n'est pas exactement la même chose. Un vin biologique, c'est un vin qui est fabriqué par un viticulteur, un œnologue, qui ne recourt à aucun intrant, aucun produit chimique. C'est donc un vin biologique. La plupart du temps, on nous dit qu'il est extraordinaire à cause de la biologie, mais c'est tout simplement parce qu'on arrête les produits toxiques et intoxicants. Le vin biodynamique, ça n'est pas du tout la même chose. Un vin biodynamique n'est pas un vin biologique, mais c'est un vin qui obéit à l'anthroposophie, qui est une doctrine de Rudolf Steiner, donc, et je vais vous parler de cette doctrine pour que vous sachiez véritablement ce qu'elle est. Et j'ai souhaité cette séance parce que depuis quelques temps, nous examinons la question de la vie, du vivant et du vitalisme. Et il y a des amis qu'on préférerait ne pas avoir, et parfois on préfère avoir certains ennemis, s'ils sont de qualité, parce qu'effectivement, du côté des vitalistes, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Quand vous avez dit que la vie est, qu'il y a du vivant, que ce vivant échappe encore au concept, à la raison, à la définition, alors tout est possible. Vous pouvez expliquer que vous pouvez vous soigner avec un morceau de sucre dans lequel il n'y a rien. Ça s'appelle de l'homéopathie, mais tout simplement parce que vous aurez expliqué que effectivement, on n'a pas besoin de traces matérielles puisque l'immatériel suffit. La théorie quantique permet aujourd'hui ce genre de choses. C'est une belle métaphore, la théorie quantique, et en tant que telle, elle passe pour une vérité scientifique, sans qu'on ait forcément beaucoup de preuves de son existence. Ce sont de belles hypothèses dont on a décidé un jour qu'elles étaient devenues des vérités. Et ça vous permet d'expliquer que la mémoire de l'eau existe, par exemple, c'est-à-dire que vous pouvez tremper la clé, une clé dans l'eau de la Seine, par exemple, à Rouen, ou à Paris du moins, et qu'à Rouen, elle en aura conservé la mémoire. Et il y a eu des scientifiques, je mets le mot entre guillemets, mais qui se sont occupés de ce genre de choses, je songe à Benveniste, et il est intéressant de savoir jusqu'où le vitalisme peut aller sans rencontrer l'ésotérisme ou l'occultisme, qui sont pour le coup des lieux que je ne maîtrise pas du tout. J'ai mis le nez un peu là-dedans à une époque pour voir un peu à quoi ça ressemblait, mais tout est possible puisqu'on est dans le domaine de ce que le linguiste Austin appelait le performatif. Le performatif, c'est un livre qui a un titre dans lequel la thèse est dite, c'est « Quand dire, c'est faire ». C'est le titre d'Austin. Et effectivement, pour celles et ceux qui se sont mariés, à un moment donné, le prêtre dit, ou le maire dit, je vous déclare mari et femme. Eh bien, voilà un discours performatif, du simple fait qu'on nous dise, vous l'êtes. Ça va bien quand il s'agit d'être mari et femme, encore que, mais c'est plus problématique dans le domaine scientifique. Il ne suffit pas de dire une chose pour qu'elle soit. Une partie de mon travail sur Freud procède de cette idée que nous sommes dans le performatif. Je dis, donc c'est la vérité. Et quiconque ne souscrit pas à cette vérité est dans l'erreur et a de bonnes raisons d'être dans l'erreur puisqu'il est un malade, puisque etc. etc. On connaît le fonctionnement. Donc je souhaiterais que nous puissions voir réellement ce qu'est l'anthroposophie, ce qu'est l'agriculture anthroposophique, parce qu'il y a une pédagogie anthroposophe, parce qu'il y a une politique, parce qu'il y a une médecine, hélas, parce qu'il y a une pharmacie et toutes ces choses-là existent, une vision du monde. Et je souhaitais donc que nous puissions donner des limites au vitalisme dont je vous parle depuis quelque temps, parce qu'il me semble que c'est une philosophie importante, que c'est une pensée majeure, le vitalisme, et qu'elle mérite d'avoir de véritables amis et pas des gens qui sont sur le terrain de ce que, de manière générale, on pourrait appeler le New Age, une espèce de conception du monde où le performatif rend possible tous les délires. C'est donc une espèce de critique de la raison biodynamique que je vous propose pour que vous puissiez voir ce que peut être une pseudo-science. Il y a des poétiques qui sont des poétiques et qui sont présentées comme telles, et en ce sens c'est une poétique, après tout, dans poésie, étymologiquement, il y a le principe de la création. Vous êtes en droit de faire du poétique quand vous êtes dans la fiction, quand vous êtes dans la poésie, quand vous êtes dans le romanesque, il n'y a aucun problème sur ce terrain-là. Mais on ne peut pas être sur ce terrain-là quand il s'agit de science. Et vous verrez, Rudolf Steiner parle de science spirituelle, ce qui est proprement une opposition, un oxymore. La science, elle est matérielle, elle veut des preuves. Quand une science est spirituelle, alors elle est plutôt spirituelle, mais pas science. Donc il y a des pseudo-sciences qui sont plus dangereuses que des poétiques ou des poétiques, comme on peut le dire aussi, et je souhaiterais qu'on puisse examiner cette anthroposophie pour que vous puissiez voir ce qui distingue les deux choses, le poétique et scientifique. Je pars du vin biodynamique parce qu'il m'est arrivé d'en boire, et je suis un empirique en philosophie, mais je le suis aussi dans ma vie, c'est-à-dire que je n'ai pas la religion de l'idéologie. Je ne me dis pas un vin biodynamique, un vin biologique, c'est bon par principe parce que c'est biologique ou biodynamique, ou ça n'est pas bon par principe parce que c'est biologique ou biodynamique. C'est ainsi que la droite pense, que la gauche pense, que les croyants pensent ou que les athées pensent. Ce qu'ils pensent est bon parce qu'ils le pensent, et ce que pense l'autre, qui est la pensée inverse, est mauvais parce que justement c'est le contraire de ce qu'on pense. Donc l'empirique que je suis est prêt à toutes les expériences hédonistes. Et je ne vois pas pourquoi je m'interdirais le plaisir d'un vin biodynamique si plaisir il y avait. Et je me suis un jour interrogé sur les raisons qui faisaient que, à chaque fois que j'avais goûté des vins biodynamiques qui m'étaient présentés avec ferveur par des gens, des amis, des copains, ou des gens qui me faisaient des beaux cadeaux en me disant « je voulais absolument que vous puissiez goûter ce flacon », pourquoi est-ce que j'avais eu à chaque fois des expériences mauvaises, des expériences négatives ? Aucun plaisir, mais ça c'est pas grave, il y a beaucoup de vins qui ne donnent pas de plaisir, comme des gens, mais surtout du déplaisir. Il y a aussi des gens comme ça. Et donc, je me dis, mais pourquoi est-ce que ces vins-là donnent-ils toujours les mêmes déplaisirs ? C'est-à-dire, c'est un vin pâteux, toujours. C'est-à-dire, il y a une texture qui est habituellement fluide, et là, vous avez, comme on dirait, vous avez de la mâche dans la bouche, parce que c'est un vin qui n'est pas collé. Il y a des suspensions dans le vin et on peut coller ces suspensions, c'est tout simple, vous faites une omelette sans les jaunes et vous gardez le blanc. Et le blanc, vous le mettez dans un tonneau et par principe, l'albumine du blanc d'œuf coagule les particules en suspension du vin et vous avez clarifié votre vin. Et puis après, avec le jaune, vous faites des omelettes que vous mangez avec les copains, et c'est comme ça que ça se fait chez les viticulteurs. Et pourquoi est-ce que on se refuse le collage? C'est naturel, l'œuf est naturel, le collage est naturel, donc ce sont des vins non collés, donc déjà avec des particules en suspension. Et ce sont des particules qui procèdent de ce qu'on appelle la rafle, c'est-à-dire dans la grappe de raisin, la partie boisée, et c'est rarement très intéressant en bouche. C'est-à-dire vous avez des aspérités gustatives qui ne sont jamais véritablement plaisantes. Ce sont des vins qui, également, ne sont pas filtrés. C'est-à-dire, vous avez le collage pour les particules en suspension, et puis vous avez le filtrage. Et parfois, ce sont effectivement des tamis avec des ouvertures extrêmement fines, très très fines, pour laisser passer le liquide, mais pour conserver les particules. Et les microparticules ne sont pas retenues. Donc, vous avez une consistance, là aussi, de jus de fruits. Une espèce de jus de fruits que vous auriez fait vous-même. Ça peut être très intéressant si vous faites un jus de raisin personnel, mais si vous faites un vin, c'est pas exactement ce qu'on attend du vin, c'est-à-dire qu'il ait un goût de fruit avec des particules en suspension qui vous empêchent la gustation. C'est aussi râpeux, normal. Si vous pressez avec la rafle, vous avez le bois qui donne le tanin. C'est pourquoi jadis les vins vieillissaient, parce qu'il fallait que les tanins se fondent dans la bouteille, et il fallait du temps. Donc on avait des bouteilles qu'on pouvait boire simplement après 4 ou 5 années de cave, parce qu'effectivement les tanins étaient fondus. Aujourd'hui, les tanins ne sont plus dans les bouteilles, donc on peut les boire très rapidement, on ne les garde plus, il n'y a plus de cave, enfin on ne va pas faire une sociologie de la cave, mais les vins se sont changés considérablement. Mais là, on a donc un vin non collé qui est pâteux, un vin non filtré qui est épais comme un jus de fruit, il est également râpeux et puis surtout pas de longueur en bouche. Or, le principe, les donises en matière de d'œnologie, ça suppose la couleur, bien sûr, la robe, vous avez déjà des informations. Vous avez des vieux sauternes qui ont des couleurs absolument impossibles. C'est extraordinaire. Déjà à l'œil, puis vous avez le nez, vous avez des informations, et puis après en bouche, vous avez une attaque, et puis vous avez ce qui se passe après en bouche, et puis vous avez ce qu'on appelle la longueur en bouche, et puis la fin de la longueur en bouche qu'on appelle la caudalie, la queue, si vous voulez, comme la queue d'un paon. Et vous avez des plus ou moins grandes longueurs en bouche, et plus le vin est grand, plus il a de la longueur en bouche, et parfois, plus il est complexe, plus il peut avoir des longueurs en bouche. Je vous renvoie au vin du Jura, par exemple, qui sont des vins extrêmement intéressants, qui ont des goûts de noix, de noisettes, parfois des noisettes vertes, et puis ou des noix confites, et puis vous avez une première salve, une deuxième salve, et puis parfois une troisième salve, avec des vraies longueurs en bouche. Et c'est ce qui donne dans la bouche tout ce que vous allez pouvoir juger, commenter, goûter et apprécier. Et on ne trouve jamais dans les vins que j'ai bu, et qui étaient des vins biodynamiques, j'en ai bu beaucoup, des choses intéressantes. Il y a même plutôt des arômes plutôt franchement négatifs, des arômes de vieille cave, de fumal propre, de vinaigre ou de terre. J'ai retrouvé mes notes et je vous assure que on trouve ce genre de choses. Donc c'est pas très agréable. On a un peu l'impression de boire un jus d'étable et c'est pas du vin. Et je me suis posé la question pourquoi, et j'ai posé la question aux gens qui me faisaient des cadeaux qu'ils estimaient être extraordinaires, et ils l'étaient puisqu'ils l'estimaient. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas ce plaisir qu'ils ont ? C'est un vin de foi, il faut y croire. C'est un vin de messe, d'une certaine manière. C'est-à-dire, si vous y croyez, il a toute la puissance que vous y mettez. C'est comme la psychanalyse, si vous y croyez, ça marche. Si vous n'y croyez pas, ça marche pas du tout. Et Freud le dit lui-même, d'ailleurs. Donc, à chaque fois que je m'en suis ouvert à des gens qui me faisaient ces cadeaux, ils me disaient, oui, mais c'est normal, ton palais est formaté par le scientisme. C'est pas faux. On peut entendre ce genre d'argument, on aime ce dont on a l'habitude, et on a plutôt tendance à ne pas aimer ce dont on n'a pas l'habitude. Cette expérience de faire goûter quelque chose à quelqu'un en ne lui disant pas ce que c'est, puis en lui disant alors tu en penses quoi ? Et puis il y a quelque chose de craquant, c'est un goût de noisette, c'est un goût de lait concentré, c'est extrêmement agréable. Et puis vous dites, bah ouais, c'est plutôt bon, et on vous dit, bah voilà, c'est un insecte, tu viens de manger un insecte. Et là, vous avez des gens qui crachent partout sur la table, et disent, ah, dégueulasse, et tout ça, c'est drôle, il y a deux secondes, tu me disais que c'était bon. Et d'un seul coup, quand on dit ce que c'est, ça n'est plus bon. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire, tu ne goûtes pas ce qu'il y a à goûter, mais tu goûtes une idée. Tu ne sais pas ce que c'est bon, quand tu sais ce que c'est et que c'est un insecte, parce que nous sommes dans une civilisation qui ne consomme pas les insectes, eh bien, tu estimes que ça n'est pas bon. Lévi-Strauss dit ça dans une belle page de Triste Tropique. Les Indiens, les Tupi Guarani lui offrent un bol de larves, des grosses larves, bien grasses, bien dodues, vivantes, qui sont en train de bouger comme ça dans le bol. Et moi, j'ai vu ça au Congo, dans des bassines, et des amis qui voulaient me faire goûter ça, vivant. Mais ça se mange aussi cuit. Alors je dis, écoutez, j'attendrai que ce soit un peu cuit. Et ça bouge comme ça. Vous avez juste le petit bec noir. Et puis, vous prenez, et hop, vous mettez dans la bouche. Et ça tortille un peu dans la bouche. Ah, ah, ah. Faut essayer. Et puis, vous craquez. Il y a un jus qui sort. Il y a une consistance de... Je voudrais en faire vomir quelques-uns, je vois jusqu'où va mon pouvoir de persuasion. C'est un goût de lait concentré. Et puis, vous avalez, et ça a la consistance et la texture aussi d'un lait concentré, et vous avez mangé du vivant. Ça s'appelle de l'homophagie, avec un O, pas avec un H, sinon c'est autre chose. Et on mange du vivant, alors qu'on n'en mange pas beaucoup, à part les huîtres. Et puis, vous avez mangé une larve, alors que vous ne faites pas ça habituellement. Et évidemment, Lévi-Strauss dit, je suis venu au bout du monde, pour savoir, j'allais dire au goût du monde, mais pour savoir qui sont ces Indiens, comment ils pensent, comment ils réfléchissent, ce qu'ils mangent, etc. Donc je vais pas refuser ce bol de larve qui m'est présenté. Donc effectivement, on commence à boire une idée, à manger une idée, à mettre en nez ou en bouche l'idée qu'on a déjà d'un produit. Par exemple, si vous avez des verres noirs et que vous mettez dans des verres noirs un vin particulier, vous ne dites pas lequel c'est, ça peut être un vin pétillant, un vin gazeux, un champagne par exemple, ou un vin champagnisé, ou ça peut être ce qu'on appelle un vin tranquille, c'est-à-dire les vins qui ne le sont pas, champagnisé, eh bien, si vous ne savez pas ce que c'est, vous ne saurez pas ce que c'est par la bouche. Si vous ne savez pas ce que c'est par l'œil, vous ne saurez pas ce que c'est par la bouche. Vous serez perdu, parce que ce que nous goûtons, nous vérifions ce que nous avons vu. Dans ce que nous goûtons, nous vérifions toujours ce que nous avons vu. Et la première impression, c'est toujours une impression visuelle, on ne le sait pas. Et c'est à partir de l'impression visuelle qu'on va construire ce qu'on va goûter. C'est-à-dire qu'on n'est pas empirique. On est formaté d'un point de vue gustatif comme on l'est d'un point de vue idéologique. Vous avez des mouletas comme ça pour des gens, je disais tout à l'heure, la droite pour la gauche pour la droite, la croyance pour l'athée pour le croyant, etc. Et on n'est plus dans la logique empirique de l'expérience, disons je goûte, on verra bien, je t'écoute, on verra bien, mais on est dans la critique a priori. Donc cette idée du formatage de mon palais, je trouvais que ça pouvait être pensable, mais j'ai la faiblesse de croire que j'ai la curiosité qui me permettrait d'aimer ce qui se trouverait aimable. Et de me dire, ça ressemble à rien, à tous les sens du terme, ça ressemble pas à un vin que je connaîtrais, mais c'est intéressant comme un vin que je ne connaîtrais pas. Mais il m'est arrivé de découvrir des choses qui sortent un peu des sentiers battus, les rouges frémissants, par exemple, Frizzante, enfin, en Italie, qui sont des choses un peu étonnantes, parce que chez nous, le vin pétillant est plutôt blanc, donc quand vous faites ça avec un vin rouge, on n'a pas exactement les mêmes sensations, ou des vins rouges sucrés d'Autriche. Donc ce sont des choses auxquelles on n'a pas l'habitude, et on peut trouver un intérêt justement parce qu'on aura une curiosité intellectuelle. Mais j'entendais ce type d'argument. On me disait aussi que j'étais intoxiqué au discours œnologique dominant. Ça aussi, ça peut être effectivement quelque chose qu'on peut entendre quand Robert Parker s'ennuie aux États-Unis, qui est un grand avocat et qui commence à noter les vins sur 100, et qu'il fait de son goût personnel et subjectif le goût planétaire, parce que quand vous avez une note sur... vous avez un 98 sur 100, c'est formidable pour votre exploitation, parce que tout le monde va acheter sur la planète. Et il y a un moment donné où on savait que Robert Parker aimait un certain type de vin, fabriqué dans des tonneaux particuliers, avec des bois de chêne vanillés, et avec une certaine malignité, un certain nombre de producteurs du Bordelais, quand ils savaient qu'ils auraient Parker dans leur chai, sortaient le vin qui avait été fabriqué pour lui. Il y avait une barrique Parker, parce qu'il savait très bien que ce vin-là lui plairait, puisqu'il était vanillé, boisé, etc. Mais quand on boit du vin, on boit du jus de raisin, on boit pas du jus de barrique. Eh bien, effectivement, Parker a contribué aujourd'hui à formater le goût de tout un chacun. Et nombre de gens mettent leur nez dans un verre de vin en estimant qu'il est intéressant et qu'il dit quelque chose en bouche, en oubliant que ce qui est dit en bouche, c'est ce qui se trouve dans le bois de la barrique. Dans le bois brûlé qui est vanillé et parfois dans des couleurs qui sont fabriquées parce qu'on met un morceau de fer qui s'oxyde dans le tonneau et qu'on va fabriquer une couleur rouille qui va donner une patine qui donnera l'impression que le vin est plus vieux que l'âge qu'il n'a. Donc effectivement, il y a des discours œnologiques théoriques et des pratiques œnologiques qui font que nous sommes habitués à un certain goût, donc je veux bien aussi entendre ces choses-là. Je veux bien entendre aussi les arguments qui m'étaient donnés du transport, de la conservation et de la manipulation. C'est extrêmement important, effectivement, si vous avez gardé des bouteilles à l'arrière de votre voiture, si vous l'avez gardé 15 jours dans votre appartement en attendant de le descendre dans une cave, qui est une cave avec du ciment, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'humidité, où il ne se passe rien, où il n'y a rien de vivant, vous avez tué le vin, et quel que soit le vin, même s'il est sublime, et surtout s'il est sublime, eh bien, vous l'aurez fusillé, et c'est sûr que c'est important de savoir comment il a été, ce vin, transporté, conservé et manipulé. Jusque-là, tout allait bien, c'était des arguments que je pouvais entendre. Et puis, il arrivait quelque chose où, là, pour le coup, on quitte la science, et on est dans la pseudo-science, et on touche, pour le coup, au vitalisme dans sa dimension ésotérique et occultiste, parce que là, pour le coup, on me disait que ça dépendait de la date, de l'heure, du lieu et du jour de la dégustation. C'est-à-dire que ce vin n'était pas le même en fonction des heures, des journées, etc. Bon, ça, c'est pas totalement faux non plus. On sait que la lune produit des effets sur le corps, sur la chair, sur la mer, sur l'eau. Notre corps est composé d'une grande partie d'eau, qu'il y ait des attractions, qu'il y ait des gens qui aient du mal à dormir les nuits de pleine lune, etc. C'est pas faux, c'est pas totalement vrai, mais enfin, il y a des choses dont on découvrira probablement un jour qu'elles sont scientifiquement démontrables ou scientifiquement montrées. Donc on peut imaginer effectivement que le vin étant une substance vivante, il a une vie et que on tombe pas forcément au bon moment. Que le vin n'ait pas envie de vous dire ce qu'il vous aurait dit un autre jour, une autre heure, parce que il aurait fallu 2 ou 3 degrés en plus, en moins, 8 jours de plus, 8 jours de moins, parce que vous aurez eu un changement de température dans votre cave si elle n'est pas excellente, etc. Donc des choses qui, pour le coup, étaient moins vraies, mais pas forcément complètement fausses. Donc les mouvements des astres, les mouvements de la Lune, pourquoi pas? Je me souviens de mon père qui me parlait des lunes montantes, des lunes descendantes, des lunes croissantes, des lunes décroissantes, pour prendre en considération les moments dans, dans l'année où vous allez planter, où vous allez arroser, où vous allez tailler, où vous allez... pourquoi pas? Le vin est un organisme vivant, il est en relation avec les astres, je peux entendre ce genre de choses, puisqu'on sait que la Lune produit au moins ce genre d'effet. Mais on découvre d'un seul coup que le vin biodynamique procède de la pensée magique et que la plupart du temps, il lui faut toujours le discours pour qu'il soit compris. Et c'est dans pas mal d'endroits, hein, l'art contemporain, la musique contemporaine, vous apercevez que l'œuvre ne se suffit pas et que le discours la rend possible, que ce que vous entendez ne suffit pas mais qu'il faudra le discours. J'ai souvenir d'avoir entendu Stockhausen dans un concert à Caen qui avait joué une phrase musicale et qui avait joué une autre phrase musicale et qui avait demandé au public si le public avait compris la relation qu'il y avait entre ces deux phrases-là. Personne n'a su répondre. Il a insulté tout le monde en disant que les gens ne méritaient pas le concert. Avant de nous expliquer que c'était la même phrase jouée à l'envers et que si les gens n'étaient pas capables d'entendre ce genre de choses, ils ne savaient pas ce que pouvait être le sérialisme ou la musique atonale, etc. Le dodécaphonisme, tout le monde s'est fait engueuler. Donc, il y a des moments où effectivement on doit pouvoir attendre qu'une œuvre d'art, c'est-à-dire une peinture, une musique ou un vin, n'ait pas besoin de son mode d'emploi. Le mode d'emploi, il peut arriver après si on est un spécialiste. On peut faire l'analyse d'une crucifixion de Bellini, par exemple, ou faire l'analyse d'une sonate de Beethoven. Mais a priori, on doit pouvoir avoir une sensation, une émotion, une perception, et une sensation hédoniste, c'est-à-dire une sensation qui renvoie à un plaisir, à une consistance intellectuelle, une consistance qui permet de penser ce que l'on boira. On peut boire sans penser, ça arrive à beaucoup. On peut penser sans boire, ça arrive à certains. Mais le mieux, c'est quand même de boire ce qu'on pense et de penser ce qu'on boit en sachant qu'il y a une interaction et que les alcools ou les vins nous disent des choses. Mais là, c'était l'idéologie qui devait nous dire ce qu'il fallait aimer dans ce vin qui n'était pas aimable. Donc un jour, je me suis dit, je vais essayer de comprendre pourquoi ce vin ne donne pas le plaisir qu'il annonce, pourquoi il donne du plaisir à des gens qui ont, semble-t-il, véritablement un plaisir, mais qui finalement ont un plaisir plus intellectuel, cérébral et conceptuel qu'un plaisir empirique. Je pense qu'à l'aveugle, quand on fait goûter ce genre de vin à des gens, ils peuvent pas aimer ça. J'étais toujours sidéré que des gens puissent aimer jusqu'à ce que je comprenne que c'était un vin idéologique. Et que comme toujours avec l'idéologie, on débranche l'intelligence. On débranche la raison quand on est dans l'idéologie. Et on est dans la croyance. On est dans la vérité. C'est la pleine mer, c'est bien, ça va. On sait ce qui est le bien, on sait ce qui est le mal, on sait que ça c'est le bon vin et que l'autre s'est livré, si je puis me permettre l'expression. Donc je suis allé voir chez Rudolf Steiner ce qu'était la théorie de ce vin biodynamique et je voudrais vous parler de ce texte qui date de 1924 et qui s'appelle « Agriculture » et qui est sous-titré « Fondement spirituel de la méthode biodynamique ». Alors, Rudolf Steiner est quelqu'un qui, a priori, démarre sur un terrain raisonnable et rationnel, qui fait des études de philosophie. Il naît en 1861, il meurt en 1925, et c'est quelqu'un qui fréquente Kafka, Kandinsky, il est par ailleurs franc-maçon, et il invente cette doctrine qu'on appelle l'anthroposophie. Anthropos, c'est l'homme, le sophie de l'anthroposophie, c'est le sophie ou sophia de la philosophie aussi, c'est la sagesse, donc c'est la sagesse de l'homme, c'est l'homme comme sagesse, c'est une sagesse qui nous permet d'accéder à l'homme véritablement. Son travail est a priori un pur produit de l'idéalisme allemand. Et il part de Kant, de Fichte, de Goethe, de Schiller, de Jean-Paul Richter, le poète, et de Schopenhauer. En 1891, il fait une thèse sur Fichte. Donc c'est quelqu'un qui part d'un terreau philosophique particulier. Ça a déjà été fait par, je songe à Georges Gusdorf, par exemple, qui fait de très gros volumes sur ce sujet-là, mais il y aurait de longues études à faire sur le romantisme allemand, qui est une pensée extrêmement intéressante, assez peu étudiée. Ça n'est pas le romantisme français. Dans le romantisme allemand, il y a effectivement un matériau idéologique qui, avec la sensation, l'émotion, avec l'intuition, avec la force cosmique, voilà pourquoi il faut se détacher de ce genre de choses, mais a produit toute une idéologie qui irriguera un petit peu plus tard le courant néo-païen des nationaux-socialistes. Il y a un lignage clair et net entre le romantisme allemand et une partie de l'idéologie nationale-socialiste. Ce sont des choses à dire, avec une détestation, une franche détestation de Kant, bien sûr. On débouche évidemment sur ce que je nommais tout à l'heure, l'ésotérisme et l'occultisme. L'ésotérisme, c'est une vieille chose, c'est un vieux mot en même temps, hein, c'est ce qui s'oppose à l'exotérisme. Ce que nous faisons là tout de suite, c'est de l'exotérisme. Ce que d'autres font, caché, discret, secret, c'est de l'ésotérisme. Platon avait deux enseignements. Un enseignement ésotérique, destiné à des élèves choisis, à des élites, à des aristocrates au sens étymologique, et des gens qu'il prédestinait ou qu'il destinait au pouvoir, à l'exercice du pouvoir. Cet enseignement était exclusivement oral. On n'a pas de trace écrite de l'enseignement ésotérique de Platon. Et on a un enseignement exotérique qui est destiné au plus grand nombre, qui est populaire et qui, pour le coup, est connu, puisqu'on dispose, comme vous le savez, des dialogues, de la quasi-totalité des dialogues de Platon. Donc, l'anthroposophie est d'abord un ésotérisme. C'est d'abord une sagesse réservée à quelques-uns qui auront été élus, choisis et qui sont déjà convaincus. Il faut être déjà, d'une certaine manière, anthroposophe pour pouvoir se reconnaître dans l'anthroposophie qu'on vous proposera. Kant avait fait un travail extraordinaire dans la critique de la raison pure, en 1781, et il avait distingué deux mondes, un monde phénoménal, ça parle tout seul, le monde des phénomènes, et un monde nouménal. Le noumen, c'est la chose en soi, c'est l'idée pure, si vous voulez, c'est l'idée platonicienne, hein, d'une certaine manière, c'est l'idée de Platon, qui est une idée grecque, qui se retrouve à Königsberg, en Prusse, à l'époque. Et Kant nous dit, il faut séparer les choses. Il y a ce que l'on connaît, qui est objet de connaissance, le phénoménal, et puis, il y a le nouménal, auquel on ne peut pas accéder véritablement. Ça peut être un objet de foi, et la foi ne doit pas toucher à la raison ne doit pas toucher à la foi non plus, Kant dit chacun chez soi, et c'est un gros progrès à cette époque-là, 1781 bien sûr, c'est une façon officielle et massive de sortir de la domination de la théologie scolastique chrétienne. Il reste chrétien évidemment, il est luthérien Kant, mais il donne d'une certaine manière son autonomie à la raison, et c'est en ça qu'il est un grand moment de la philosophie occidentale. Steiner, lui, s'intéresse moins au phénomène qu'au noumen, au nouménal. Et il pense qu'on peut parvenir au nouménal par intuition. Et avec l'intuition, évidemment, on reconnaît le performatif. Parce qu'après tout, mon intuition vaut bien celle du voisin, qui vaut bien celle du suivant. Et si moi j'ai l'intuition d'une chose, mon voisin peut avoir l'intuition du contraire. Et puis, le tiers personnage qui arrivera, lui, aura l'intuition de rien du tout. Voire l'intuition d'autre chose encore. L'intuition, c'est le règne de tous les possibles. Et l'on voit bien que l'intuition et la science ne peuvent pas fonctionner de conserve, encore que, on pourrait s'entendre, on pourrait dire deux ou trois choses, il y a dans la statue intérieure de François Jacob de belles pages où il explique qu'il cherche, qu'il trouve pas. Et puis qu'un jour il en a marre, il va au cinéma parce qu'il veut se détendre et qu'en plein milieu du film, de la projection du film, l'intuition lui vient, qui lui permettra ensuite d'être le prix Nobel que vous savez, mais si on explique que l'intuition peut être soutenue par un travail en amont, on peut imaginer que ça puisse être une logique de connaissance. Mais ça supposerait qu'on ait beaucoup travaillé la raison pour que l'intuition puisse avoir quelques valeurs. Mais l'idée d'une intuition pure, qui vaudrait comme telle, c'est a priori problématique, puisque n'importe qui peut dire n'importe quoi. J'ai souvent dit que je faisais de la religion la vision du monde qui supposait un arrière-monde pour expliquer ce monde. Ce monde-ci n'existe que parce qu'un autre monde lui donne sens. Pour moi, c'est ça qui définit une religion. Vous savez aussi que je souscris à cette idée, à cette vieille idée de Renan, qu'une religion, c'est une secte qui a réussi. Donc sur cette question de l'anthroposophie, elle est parfois considérée comme une secte, mais elle a aussi réussi dans pas mal d'endroits, et il y a des gens qui souscrivent à ces principes. Il me semble que dans la logique que je viens de dire, la biodynamie est une religion. Elle a d'une certaine manière son culte, ses principes et son rituel, et vous allez voir ce que sont ces rituels qui sont très intéressants. Il y a un autre livre de Steiner dans lequel on trouve des informations qui s'appelle « Rythme dans le cosmos et dans l'être humain ». Il faut mettre en perspective ce texte-là avec l'autre texte qui s'appelle « Agriculture » pour qu'on puisse voir ce qu'est l'économie intellectuel et conceptuel de Steiner sur ce terrain-là. Steiner nous dit que chacun a connu des vies humaines antérieures et que nous sommes réincarnés. Donc, on est déjà dans une logique plutôt ésotérique qui suppose l'adhésion. Que nous ayons vécu des vies antérieures, ça reste à prouver, et même ceux qui le pensent sont obligés de le croire et n'ont jamais pu en faire la démonstration. les pythagoriciens, les hindouistes ou les bouddhistes, ou tous ces gens qui croient cette idée que nous aurions déjà vécu des vies et que nous les revivrions jusqu'à ce que nous puissions être épurés un jour et parvenir à une union avec l'âme du monde, tout ça est fort sympathique, mais c'est une religion. C'est éventuellement une sagesse, mais c'est sûrement pas une philosophie. Il y a trois corps. Donc évidemment, si on a un, c'est plus facile. Si on a deux, c'est un peu plus compliqué. Si on a trois, ça permet tout. Et chez Steiner, il y a un corps physique. Chacun s'entend sur ce qu'il est. Mais aussi un corps éthérique et un corps astral. Et vous avez des gens qui parfois vous disent que vous avez un trou dans le corps astral, et c'est pour ça que ça va pas, et qu'ils voient bien que vous êtes enveloppé d'une lueur bleue, mais qu'il y a un petit trou dans la lueur bleue, et que c'est pour ça que vous avez un ongle incarné, parce qu'il y a un trou dans le corps astral. Donc tout est possible, puisque le corps astral est invisible, mais quelques-uns nous disent qu'ils le voient, parce qu'ils auraient des dons, et que leur intuition leur permettrait de voir le corps astral qui vous nimbe, ou qui vous enveloppe, et qui permet à chacun de montrer ce qu'il est véritablement. On verrait un état de santé, un état de fatigue, un état de détresse, un état de maladie, simplement en percevant le corps astral dont la preuve n'a jamais été faite, évidemment. C'est le performatif qui rend possible ce genre d'affirmation. Steiner nous dit que les âmes des morts peuvent attendre 1000 ans pour se réincarner. Et il y a aussi chez les ésotéristes et les gens un peu fous, une espèce de numérologie fantasque. Il y a plein de chiffres chez Steiner sur des dimensions, sur des temps, sur des profondeurs d'enfouissement d'un certain nombre de choses dont je vais vous parler. Et il donne des centimètres. Mais si c'est 42, c'est pas 41, c'est pas 43, c'est 42. Là, c'est 1000 ans. Bon, on peut imaginer que le temps dans l'éternité, ça compte pas beaucoup, et que attendre 1000 ans, c'est problématique, à moins que d'avoir une montre bien réglée, mais certains peuvent attendre aussi longtemps. Et puis, des humains à haute spiritualité, eux peuvent tarder à se réincarner parce qu'ils sont bien là où ils sont. J'aurais aimé poser la question à Steiner, mais s'ils sont bien là où ils sont, pourquoi est-ce qu'ils prennent le risque de se réincarner dans un endroit où ils risquent d'être moins bien ? Le temps, c'est moins agréable que l'éternité quand on en dispose. Mais ça, c'est pareil. Ça fait partie des questions qu'on ne peut pas lui poser puisque le performatif n'admet pas l'interrogation. Si vous interrogez quelqu'un qui est dans le mode du performatif, il ajoutera du performatif pour tâcher de vous convaincre. Si vous êtes déjà convaincu, il n'y a aucun problème. Mais si vous ne l'êtes pas, vous êtes encore plus désorienté. L'anthroposophie est donc une théosophie, c'est-à-dire le contraire d'une philosophie. L'anthroposophie, cette espèce de sagesse à partir de l'homme, ou cette sagesse de l'homme que nous propose Steiner, suppose une théosophie, c'est-à-dire une sagesse par le divin ou par la divinité. Évidemment, c'est pas une divinité judéo-chrétienne très identifiable, c'est pas un dieu juif, c'est pas un dieu chrétien, ou un dieu catholique, mais c'est une divinité de force, c'est une divinité cosmique, et voilà pourquoi je souhaitais cette séance pour pouvoir parler de cosmos et du cosmos, sans en parler dans cette configuration ésotérique et occultiste. Il a développé sa pensée, Steiner, dans un grand nombre de conférences, on parle de 6000 conférences, de 370 livres, et il a abordé tous les sujets, pédagogie, médecine, agriculture, politique, etc. Il couvre tous les champs de la culture, il a créé des écoles, et je vous disais tout à l'heure aussi, des médicaments, des laboratoires pharmaceutiques, qui sont pour lui l'occasion d'effectuer autant de variations sur le thème de l'homéopathie, qui est une fiction pour moi, et la phytothérapie, qui n'est pas une fiction, puisque les plantes ont un évident pouvoir. Vous savez très bien que si vous prenez un café, enfin ça marche pas pour tout le monde, mais si vous prenez un café le soir, vous aurez du mal à vous endormir, et que si ça se prend le matin, c'est parce que justement c'est tonifiant et tonique, et vous avez de la théine dans le thé, vous avez de la théobromine dans le chocolat, enfin vous avez des substances qui sont des substances agissantes sur le corps. C'est très bien que la digitaline, si vous en prenez trop, ça peut vous faire péter le cœur, et que, etc., etc. Enfin, la puissance et le pouvoir des plantes est évident. Le pouvoir de l'homéopathie reste à démontrer. Alors, la biodynamie, elle fonctionne dans pas mal d'endroits, sur la totalité de la planète. Il y a 2700 fermes aujourd'hui qui sont franchement déclarées biodynamiques, et 92 000 hectares de terres qui sont cultivées en biodynamie. Il y a des labels, Déméter pour l'un et biodivin. Vous voyez comment le mot est construit, c'est bio et c'est divin en même temps, mais il y a un Y à la place qui écrit le divin, donc qui renvoie aussi à Dionysos. Donc on voit un peu une espèce de syncrétisme entre le divin classique et puis le divin dionysiaque, qui est aussi grec, et qui permet à certains, dans une logique un peu néo-païenne, de réactiver des logiques irrationnelles. Il existe un syndicat international des vignerons en agriculture biodynamique, et ils n'aiment pas beaucoup ce que j'écris. Alors, on va dire ce qu'elle est, sans trop s'en moquer, mais il suffira même de dire ce que c'est pour qu'on rigole un peu. Il y a deux conférences qui sont données entre le 7 et le 16 juin 1924 qui constitue ce texte, Agriculture, et Steiner peut être suivi sur le constat. Il fait un constat qui me paraît évident. Il dit que l'agriculture traditionnelle intoxique l'humanité. Évident. Et plus évident encore aujourd'hui, en sachant que, on n'est pas en 2024, mais c'est écrit il y a presque un siècle, hein, 1924. Prophétie en 1924. Il stigmatise la mécanisation. Ça peut se comprendre. Ça peut aussi ne pas se comprendre. Quand on a vu des ouvriers agricoles ou des paysans travailler à la main, à la fourche, etc., on n'est pas forcément mécontent que ces choses-là aujourd'hui se fassent de manière mécanisée, avec moins de souffrance ou de dépenses musculaires. Il déplore la fin des traditions. Ça peut être aussi intéressant. Ce sont des choses qu'on peut entendre. Il y a un savoir paysan empirique dont j'ai fait l'éloge, qui effectivement disparaît aujourd'hui, et c'est bien dommage, parce que les sagesses empiriques sont des sagesses fondées. Il encense également la sagesse populaire des paysans d'antan. Et dans cette logique-là, il vante aussi les mérites de la connaissance empirique paysanne qu'on retrouvait à l'époque dans les fameux almanachs. Et ça aussi, ça peut être entendu. À 64 ans, par exemple, il déplore de ne plus retrouver le goût des pommes de terre de son enfance. Et il estime que c'est à mettre en relation avec l'industrialisation dans les années 20. Il faudrait dire aussi un jour, sur cette logique de la nostalgie, du genre les fraises n'ont plus le goût qu'elles avaient quand j'étais enfant, que on peut forcément incriminer l'agriculture, la modernité, l'industrie, etc., mais que personne n'incrimine jamais le vieillissement de son corps. Et personne ne dit jamais, mais quand j'avais 10 ans, j'avais pas le même corps, j'avais pas le même cerveau, j'avais pas les mêmes émotions, j'avais pas les mêmes perceptions, j'avais pas les mêmes sensations. Et la fraise, ça n'existe pas. La fraise, elle est en relation avec une subjectivité, et si c'est une subjectivité infantile, c'est pas exactement la même chose qu'une subjectivité adulte, une subjectivité vieillissante, voire une subjectivité de vieillard. Quand on a perdu le goût à tout, au sens premier du terme, on a aussi perdu le goût des choses, et ce ne sont pas forcément les choses qui ont perdu leur goût. C'est nous qui avons perdu le goût à l'endroit des choses, et nous ne goûtons plus de la même manière des produits que nous goûtions différemment dans une configuration qui était celle de la fabrication de notre jugement de goût. On goûte les choses de l'enfance, et les choses de l'enfance ont une saveur évidemment supérieure aux saveurs qu'on pourra retrouver par la suite. Je vous renvoie à la totalité de l'œuvre de Marcel Proust, avec cette quête des souvenirs de l'enfance, souvenirs perdus, souvenirs olfactifs, souvenirs auditifs, la mer, le bruit du pas de la mer, les aubépines du côté de Guermantes, enfin toutes ces choses-là, qui fait la fameuse Madeleine dans la tasse de thé, enfin toutes ces choses qui renvoient à des émotions perdues, et les émotions perdues sont toujours sublimées et magnifiées par rapport aux émotions qu'on a aujourd'hui. Et un jour il arrive où les émotions qu'on a aujourd'hui, dont on estime qu'elles sont émoussées, eh bien, elles paraîtront très vives quand elles seront plus émoussées encore. Donc il faut faire attention à ce jugement de valeur sur le « c'était mieux dans le temps », et j'en suis d'autant plus conscient que ça m'arrive. Ceci dit, il y a quand même, mais là je parle dans la configuration de 1924, il y a quand même eu de 1924 jusqu'à aujourd'hui une agriculture qui effectivement est devenue industrielle et qui a transformé les produits que d'aucuns ont pu connaître dans la campagne en choses dégoûtantes. Pelé des asperges hier soir, j'avais l'impression de sortir de la piscine, ça me giclait partout, c'était des éponges à eau, et quand je les ai cuites à la vapeur, elles n'avaient pas le goût d'asperge, et pourtant elles avaient le prix de l'asperge. Mais parce qu'effectivement, on fabrique des légumes qui sont des légumes formatés, faciles à vendre, faciles à conserver, faciles à transporter dans des camions frigorifiques ou ce genre de choses, et de fait, il existe objectivement une disparition de la saveur et de la sapidité des aliments, indépendamment de la modification de notre propre goût. Il y a donc chez Steiner une logique extrêmement binaire, et ça c'est comme ça dans toutes les sectes, il y a le bien, il y a le mal. Vous avez le monde négatif, c'est la modernité, avec le matérialisme, le scientisme, la raison, la chimie, les engrais, la matière, la mort évidemment. Et puis un monde positif qui est celui de l'anthroposophie, avec l'esprit, le corps éthéré, la tradition, le cosmos, l'astrologie, l'ésotérisme, l'occultisme, l'intuition, la nature et la vie. Si le monde continue comme il continue, nous dit Steiner, il va mourir. Si, en revanche, ce monde se convertit à l'anthroposophie, évidemment, alors il pourra être sauvé. On est dans une sotériologie, comme on dit, c'est-à-dire un discours qui présente le salut. La sotériologie, c'est l'art de dire « tout va mal, mais voici un salut possible ». Le marxisme est une sotériologie, bien sûr, le freudisme est une sotériologie, le christianisme, évidemment, toutes les religions sont des sotériologies, et bien ici, on a aussi une sotériologie l'anthroposophie est la réponse à tous les problèmes qu'on peut avoir. Il y a chez Steiner ce que j'appellerais une anti-méthode. C'est toujours très intéressant de voir comment fonctionnent les méthodes, du moins pour ceux qui en ont. Il y a des gens qui se contentent de la méthode d'autrui, mais on voit comment fonctionne sa méthode, et Steiner récuse les abords théoriques, conceptuels, statistiques, universitaires. Les universitaires ont les qualités de leurs défauts. Ils sont parfois sinistres, ennuyeux, pénibles, etc., mais ils ont un scrupule nécessaire. Ils ont une patience du concept qui est utile. Ils ont une capacité à fouiller dans le même endroit sur un terrain extrêmement bref, de faire un travail géologique, archéologique, un travail de taraudage qui est parfois extrêmement intéressant. Même s'il est austère, il existe et il est préférable, effectivement, d'aborder les choses d'un point de vue universitaire sur ce terrain-là que de croire que le performatif suffira. L'universitaire suppose un minimum de compétences quand le performatif n'en exige aucune. Il invite Steiner à l'observation, et ça c'est une idée intéressante parce que je pense que depuis Platon, depuis du moins le triomphe de Platon, et pas celui de Démocrite, on aurait eu une société démocritéenne, elle ne serait pas du tout la même, une civilisation, mais effectivement on n'observe plus le réel, dans notre civilisation on observe le discours qui dit le réel, on observe les concepts qui permettent de dire le réel. On regarde le ciel des idées d'abord. Ça, c'est la vieille logique platonicienne. À un moment donné, je me suis demandé pourquoi le porc était devenu cet animal tellement inconvenant en philosophie. Et à un moment donné, Platon nous dit que le porc est incapable de regarder le ciel. Sa configuration, sa morphologie, son anatomie fait qu'il a toujours le groin dans la terre et qu'il ne peut pas lever la tête. Donc, il ne peut pas lever la tête, donc il ne peut pas voir le ciel. Le ciel, donc, les idées, le monde des idées. Donc, le pourceau d'Épicure, c'est celui qui ne regarde pas le ciel des idées, mais c'est celui qui a le nez dans la terre, le nez dans la boue, le nez dans la glaise, et qui se contente du monde donné, qui est dans le réel. Eh bien, effectivement, c'est pas inintéressant de retrouver une tradition philosophique qui invite à l'observation, à dire arrêtez de regarder le ciel pour y trouver la vérité de la terre. La vérité de la terre, c'est la terre. C'est dans la terre. Ayez le sens de la terre, disait Nietzsche. Donc lui, il invite à l'observation dans les champs, dans les forêts, ou l'observation du comportement des animaux d'élevage dans leur pâture. Et tous les paysans savent ça. Les paysans sont capables de dans un troupeau d'une cinquantaine de moutons, de reconnaître évidemment chacun de leurs moutons, ce qu'un urbain n'est évidemment pas capable, si on lui en donne trois à reconnaître, il ne reconnaîtra pas. C'est un monde, effectivement, auquel il n'a pas été habitué, il ne le percevra pas. Il faut s'interroger sur ce qui est, et il y a un moment donné où effectivement les interrogations dérapent. Pourquoi un animal se comporte comme ça? Ça peut être intéressant. Mais une question du genre, pourquoi la betterave entretient une relation intime avec l'environnement cosmique de la Terre? C'est déjà plus problématique. Pourquoi pas? Il y avait ça chez Fourier, mais c'était pour le coup franchement poétique ou poétique, comme je le disais tout à l'heure. Mais on voit ici que il s'agira de comprendre ce qu'est la betterave en allant examiner les astres, non pas dans une configuration astronomique, mais dans une configuration astrologique. L'astronomie, c'est l'observation des astres en tant que telle. L'astrologie, c'est la déduction de comportements induits par les astres qu'on observe. C'est pas exactement la même chose. Les astrologues qui vous prédisent ceci ou cela, évidemment, sont dans le performatif. Là où l'astronome est capable, lui, de vous donner des informations extrêmement précises sur ce qui est et sur ce qui advient. Il estime qu'effectivement, on n'a pas besoin de prouver ou de démontrer, et il y a quelques phrases qui sont intéressantes, et une seule phrase suffirait, mais enfin, il y en a quelques-unes, et je vais vous en donner une. Par exemple, il écrit qu'il existe, d'une citation, « dans le sol, il existe dans le sol quelque chose qui agit à la manière de l'astral ». Quelque chose, on ne saura pas ce que c'est, quelque chose n'est pas un concept philosophique, ça pourrait le devenir chez Jean Kelevitch, mais dans cette configuration-là, quelque chose, c'est suffisamment vague pour qu'on puisse dire, mais justement, le sujet, c'est pas quelque chose, c'est quoi ce quelque chose? Il existe dans le sol quelque chose. Dites-nous, faites 10 pages, 2 pages, 1 page sur ce qui est véritablement dans ce sol et qui nous permettrait d'acquiescer à votre formule, à votre formulation, parce que vous auriez des démonstrations à nous faire et qui nous permettraient de montrer qu'il y a de l'astral dans du matériel ou qu'il y a de l'immatériel dans du matériel. Par exemple, l'eau, chez un chimiste, vous prenez la table de Mendeleïev et puis vous dites, ben voilà, l'eau c'est H2O, donc voilà, c'est ainsi constitué, on apprend ça au collège, jadis on apprenait ça, mais l'eau n'est pas que l'eau. Pour ces gens-là, les choses ne sont pas ce qu'elles sont, elles sont plus ce qu'elles sont, et la vérité des choses est au-delà de ce que sont les choses. La vérité de l'eau n'est pas dans H2O, la vérité de l'eau se trouve dans une force qui est en relation avec le cosmos. C'est quoi cette force? On ne sait pas. Quel est le type de relation? On n'en sait pas plus. Et quel est véritablement le cosmos dont Steiner nous parle? Même chose, ça reste tout aussi vague, mais on est dans le performatif. La pluie, vous savez ce que c'est? On est en Normandie. Eh bien, c'est surtout pour Steiner le vecteur de forces qui sont venues des planètes. Il y a des forces qui viennent des planètes, elles sont dans la pluie, et la pluie n'est pas que de l'eau de pluie. C'est une force. Même chose avec du bois de chauffage. Le bois de chauffage, il a un pouvoir calorifique, mais ce pouvoir calorifique, il est en relation avec les périodes de plantation cosmique. Je me souviens aussi, toujours mon père, qu'effectivement, on pouvait dire qu'il y avait des arbres qui avaient un pouvoir calorifique différent en fonction des sols, des sous-sols, parce qu'il y avait une géologie, une géomorphologie, et que des sols calcaires qui gardaient l'eau, qui ne gardaient pas l'eau, produisaient des bois qui pouvaient ensuite effectivement donner de plus ou moins mauvais bois de chauffage. Ça paraît une évidence. C'est une évidence que les arboriculteurs connaissent, que les géologues connaissent, que les géologues matinés d'arboriculture ou les arboriculteurs matinés de géologie savent également. Mais là, d'un seul coup, il ne s'agit pas de forces matérielles, quantifiables, mesurables. Il s'agit là encore de forces astrales. Ce sont des forces astrales et on n'a toujours pas l'équivalent d'un dynamomètre qui nous permettrait de savoir comment elles fonctionnent. Je me souviens en terminale d'avoir était obligé de lire mon premier livre de bachelor qui s'appelait La formation d'esprit scientifique. J'ai trouvé ça un peu ardu. Ça l'est, un peu, mais enfin pas tant que ça. Et c'est par la suite que j'ai découvert que c'est un grand livre d'épistémologie, de philosophie des sciences et de philosophie de la connaissance. Comment connaît-on? C'est la question posée par Kant dans la critique de la raison pure. Mais c'est austère, la critique de la raison pure. C'est assez compliqué. Et comment des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles? Qualité, quantité, relation, modalité. Vous en payez 600 pages comme ça. Et après, vous vous dites tout ça pour ça. On n'est pas bien sûr que ça a été autre chose qu'un rite initiatique pour les philosophes, alors que chez Bachelard, il y a des exemples de ce qu'il appelle des obstacles épistémologiques. C'est-à-dire des choses qui empêchent de penser. Vous allez penser quelque chose qui va être vrai, mais quelque chose va s'interposer entre vous et va faire dévier votre pensée ou va faire dévier votre raison. Et vous allez déboucher sur une formule, une formulation qui va être un performatif pur et vous n'aurez dit qu'une bêtise. Eh bien, il parle d'obstacles substantialistes, d'obstacles verbales, d'obstacles animistes. Enfin, il parle de ce qu'il appelle une psychanalyse de la connaissance objective, pas freudienne, évidemment, chez lui. Elle est plutôt jungienne chez Freud. Et il me semble qu'on pourrait ajouter à ces obstacles épistémologiques l'obstacle du performatif. Je dis donc c'est. J'ai dit que c'était ainsi, donc c'est ainsi. J'ai fait ça pendant un an avec Freud en essayant de montrer qu'effectivement on était là aussi dans une logique performative et pas scientifique, ce qui n'est pas grave si l'on ne dit pas qu'on est dans le scientifique. Moi j'ai rien contre les poètes. Je les aime plutôt a priori. Et si Freud s'était contenté d'une poétique de la vie, de la civilisation et de la culture, j'aurais rien eu à dire. L'idée qu'il s'agirait d'une science, donc qu'elle est exacte, donc qu'elle est reproductible à l'envi avec les expériences qui permettraient de parvenir à la démonstration franche et nette de l'existence du complexe d'Édipe, par exemple. Or, ça n'a jamais été le cas. Et puis après, on ajoute les idées qu'on pourrait, et c'est ça qui me gêne, dire qu'on soigne et qu'on guérit des gens en prenant de l'argent au passage. Et ça, franchement, c'est plutôt la chose la plus insupportable. Mais le performatif fait beaucoup la loi. En politique, il fait toute la loi. Hein. Mais en science, il fait aussi la loi. Hélas, parfois. Et je n'ai pas les compétences sur la question de la mécanique quantique, mais je pense qu'il y aurait des choses à dire sur la mécanique quantique qui procède beaucoup du performatif. Et il y a, chez Steiner, quelque chose que j'appellerais une logique du comme. Comme. Vous faites une comparaison, et le bon sens populaire dit comparaison n'est pas raison, et je pense que le bon sens populaire a raison, comparaison n'est pas raison, et à chaque fois qu'on prend une comparaison, c'est qu'on n'a pas envie de disserter sur l'objet véritable. On s'en va sur un autre objet. C'est comme avec Hitler, c'est comme avec Vichy, c'est comme avec Pétain, c'est comme avec le nazisme, c'est comme, etc. Vous connaissez l'histoire, et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus penser la chose. Prenez le livre d'Edwy Plenel qui s'appelle « Pour les musulmans ». On vous dit dans les 10 premières lignes que les musulmans aujourd'hui, c'est l'équivalent des juifs dans les années 30. L'affaire est réglée, pas besoin d'aller chercher plus loin dans le livre. La chose a été dite, c'est pas prouvé, c'est pas montré, c'est du performatif, mais c'est la logique du « comme si ». C'est ainsi, comme dissertons sur l'exemple, et quand on aura disserté sur l'exemple, ce sera reproductible sur la chose qui nous aura finalement préoccupé a priori, mais qu'on aura laissé véritablement. Donc, se méfier de cette idée du comme, et il y a un obstacle, je dirais pas anthroposophique, mais anthropomorphique. chez Steiner. C'est-à-dire qu'il fait du corps un modèle de la nature. Il estime que la nature est un corps ou que le corps est une nature et qu'il faut trouver des équivalents. C'est-à-dire que il faut penser la relation de l'homme à la terre dans une idée d'homothétie, pourrait-on dire, de ressemblance, de pure ressemblance. Là où il y a de la tête, il faut chercher la tête. Là où il y a de l'entraille, il faut chercher de l'entraille. Là où il y a des membres, il faut chercher du membre. Là où il y a du cœur, du poumon, etc., il faut rechercher ces choses-là. Donc il y aurait une tête dans la nature, il y aurait un souffle dans la nature, il y aurait un cœur dans la nature, il y a une circulation dans la nature, etc. On extrapole du modèle humain un modèle qui nous permettrait de comprendre la totalité de l'univers. Dès lors, on va chercher une tête, on va chercher un diaphragme, on va chercher des entrailles, et on va disserter de cette manière-là. Ainsi, il nous dit, comme la tête de l'homme, la plante subit les influences des effets du ciel proche. Alors il y a du ciel proche, mais il y a aussi du ciel éloigné. Allez savoir à partir de quel moment on passe du proche à l'éloigné, la chose évidemment n'est pas dite, mais le ciel proche, c'est celui dans lequel on trouve le soleil, Mercure, Vénus et la Lune. Eh bien, la tête est en relation avec le ciel proche, de la même manière que les entrailles sont en relation avec le ciel lointain. Et le ciel lointain, c'est Jupiter, Saturne et Mars. Et là, pour le coup, c'est la plante qui est en relation avec la tête. La tête, c'est comme la plante, c'est comme la tête. Et les entrailles, c'est comme le sous-sol, c'est comme les entrailles. Donc la tête est une plante et le sol est une entraille. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Terre, eh bien, vous avez une espèce de plante qui est enracinée dans un sous-sol qui, lui, subit les effets du ciel lointain. On est déjà dans une dynamique, dans une proposition qui est métaphorique, mais cette métaphore devient tout de suite et systématiquement une vérité. Le sol, par exemple, est un organe dans l'organisme. Vous voyez le sol, et vous pourriez dire « le sol, c'est du sol ». Non, le sol, c'est un diaphragme. Donc c'est pareil, ça sépare deux instances corporelles, ça a un rôle particulier. Eh bien, le rôle qu'a le diaphragme dans un corps, il va être transposé, voire extrapolé dans le sous-sol, et le sol, va fonctionner comme un diaphragme. C'est le ventre, nous dit-il, du domaine agricole. Jamais le cosmos n'agit directement sur les plantes, mais il agit via la terre qui est son vecteur. La vie du sous-sol, il nous dit qu'elle est rythmée d'une façon particulière. On ne sait pas pourquoi et comment, mais par exemple, il nous dit, et là c'est une citation, entre le 15 janvier et le 15 février, fin de citation, eh bien, le sous-sol s'émancipe de sa proximité avec la Terre et il passe directement sous l'influence des forces cosmiques les plus éloignées qui sont actives à l'intérieur de la Terre. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une espèce de numérologie fantasque, on vous dit le 15 janvier, c'est pas le 14, et on vous dit le 15 février, c'est pas le 16 non plus, mais il a décidé que, voilà, du 15 au 15, entre janvier et février, le sous-sol s'émancipe, il est dans une relation particulière avec la Terre. Il y a production à ce moment-là de ce qu'il appelle une force de cristallisation. Citation, « Ce sont là des choses qui auront un jour valeur de données exactes. » Extraordinaire, ça pourrait être une phrase de Freud. « On n'est pas sûr, on annonce, c'est du performatif, on dit que c'est certain, puis un jour, on fait savoir qu'on aura la certitude que cette certitude est certitude. » Mais pour l'instant, on est dans une configuration de supposition pure. Dans le sous-sol qui est vivant, nous dit Steiner, il y a au-dessus un sol, et ce sol, c'est la mort. Sous-sol, vie, sol, mort. Il y a, citation, « un principe de vie intérieure, quelque chose de vivant ». Là encore, principe, sans qu'on sache véritablement ce qu'est ce principe, et toujours ce recours à ce mot « quelque chose ». Qui n'est jamais défini. Ce principe n'est évidemment ni atomique, ni scientifique, ni matérialiste. Il ne renvoie même rien de connu dans la science de son temps. Et Steiner dit souvent la science de notre époque. Sous-entendu, une science viendra qui validera scientifiquement mes hypothèses aujourd'hui. Freud disait exactement la même chose. Et il nous dit que cette force, ce principe, et qui détermine tout, mais qui est invisible en tant que tel, mais qui est visible partout, puisqu'il est tout, eh bien, c'est l'éther de la vie du sol. L'éther de la vie du sol. Où l'on voit bien que quelque chose d'ineffable, d'indicible, d'invisible, d'incorporel, d'immatériel, qui est déterminant de tout ce qui est, on se retrouve dans une logique religieuse. C'est le principe de Dieu ou du divin ou de la divinité. Il y aurait une transcendance qui donnerait son sens à l'immanence. Il y aurait un arrière-monde qui ne relèverait pas de ce monde-ci, mais qui rendrait possible ce monde-ci très exactement. On est dans la logique de la religion, dans une logique religieuse. La vérité se trouve dans les astres. Il nous donne des exemples, il dit la couleur des fleurs. prenez la couleur des fleurs, eh bien, les couleurs supposent les relations qu'entretiennent les fleurs avec les planètes. Par exemple, le rouge de la rose entretient une relation avec Mars. Le jaune du tournesol, une relation avec Jupiter et les forces cosmiques du Soleil. Le bleu du bleuet, relation avec Saturne. Le vert avec la chlorophylle, donc avec le Soleil. C'est ainsi, c'est posé. Vous pourriez tout aussi bien, comme dans le sonnet des voyelles de Rimbaud, dire l'inverse, et associer une voyelle à une autre couleur, personne ne dira que vous avez franchement tort. Pourquoi est-ce que le rouge sera en relation avec Mars? Parce que le jaune sera en relation avec le Soleil, simplement parce que le Soleil brille et qu'il donne l'impression d'être jaune, parce que Mars est le dieu de la guerre, c'est le dieu de la colère, c'est le dieu du sang, c'est le dieu empourpré, c'est le dieu qui fait couler le sang. Donc on est là encore dans une pensée du comme. C'est comme si, c'est comme ça que ça se passe. Mars, c'est le dieu de la guerre, donc c'est la planète de la guerre. Bien évident que Mars s'en fout de s'appeler Mars, parce qu'on pourrait tout aussi bien l'appeler Josette, et ça ne changerait rien à Mars véritablement. Simplement, si on estime que cette planète s'appelle Mars, alors on l'investit des qualités de Mars, dieu de la guerre. Vénus, dieu de la fécondité, etc. Et puis vous faites la même chose avec Jupiter, avec toutes les autres planètes. Et la bêtise de l'astrologie suppose que ce que l'astronomie vous aura dit, telle planète existe, et telle planète est ainsi nommée, eh bien, ça aura conféré, ce principe de nomination, les vertus du dieu qui sert à nommer la planète. Et à partir de ce moment-là, évidemment, on trouve du rouge chez Mars, et on trouve du bleu chez Saturne, qui est la planète de la mélancolie, etc., etc. Le goût des fruits, c'est la même chose, et il est en rapport avec les astres. Citation, dans une pomme, c'est effectivement... J'apprécie le effectivement. Hein. Dans une pomme, c'est effectivement Jupiter que vous mangez. Dans la prune, c'est Saturne. Sachez-le. Les animaux, c'est la même chose. Ils sont évidemment en relation cosmique. Et il y a, chez les animaux, une ligne qui va du museau à la queue, donc de la tête qui est solaire, allez savoir pourquoi, à l'arrière-train qui est lunaire. Allez savoir pourquoi aussi. Moi, j'ai connu des arrière-trains solaires. Mais... Oh non, c'est un peu facile, mais bon... Donc, oubliez ce que je viens de dire. Mais donc, il y a une ligne qui va du museau à la queue, et c'est cette ligne qui va du museau à la queue qui subit l'influence des astres. La même chose, on n'expliquera pas pourquoi, mais c'est ainsi. Il s'agit, nous dit Steiner, d'une science spirituelle. C'est le mot que j'utilisais tout à l'heure, oxymore complet, puisque la définition de la science, c'est justement qu'elle évacue le spirituel pour être dans le matériel et dans le démontrable. Je voudrais vous entretenir des cornes, pas encore parler du fumier, mais des cornes, et philosopher sur les cornes. Question intéressante, pourquoi les vaches ont des cornes et les cerfs des bois, nous dit-il, et pas l'inverse. Imaginez en Normandie des vaches avec des bois de cerf et des cerfs avec des cornes de vache. Réponse de Steiner. La corne de la vache est le lieu par lequel transitent, venu de l'extérieur en direction de l'intérieur, des courants qui viennent des astres. Donc il faut bien voir les choses, ça vient du dehors et ça arrive dans le dedans. Donc la corne de la vache, elle reçoit les forces cosmiques. Les forces cosmiques qui sont à l'extérieur rentrent dans la vache par la corne. Il faut que vous sachiez ça en Normandie, c'est important, ça va modifier votre vision des vaches. Le cerf, lui, en revanche, n'a pas pour fonction de ramener les courants astraux dans l'organisme. Tranquille, ça va. Mais sa fonction à lui, c'est de conduire du dedans vers le dehors. C'est l'inverse, hein. Et sur une certaine distance. Vous savez, c'est le fût de canon de Fernand Reynaud, ça met un certain temps à refroidir. Eh bien là, c'est pareil, il y a une certaine distance, mais voyez pourquoi, quand vous sortirez, si vous arrivez de croire que les vaches ont des bois, c'est que vous avez bu un peu trop de poirée et que vous n'avez pas lu assez Steiner, ou que éventuellement vous êtes troublé par cette dialectique du dehors, du dedans, du dedans, du dehors, qui fait effectivement que, j'espère que vous l'aurez compris, les vaches ont des cornes et les cerfs ont des bois. C'était important, car vous allez voir, la corne a son rôle dans la vie de tout un chacun. C'est une substance spirituelle parce qu'elle canalise les forces de la vie astrale dans le corps animal. Il donne des exemples, et comme j'en étais en Normandie, je me suis dit, il faut absolument qu'on parle un peu de la vache. Et il nous dit, si vous étiez, c'est une expérience qu'il propose, hein, si vous étiez à l'intérieur de son ventre, c'est une fiction, hein, faut pas croire que c'est de la zoophilie, mais si vous étiez à l'intérieur de son ventre, vous sentiriez à l'odeur le courant des forces de vie s'écouler des cornes vers l'intérieur. N'est pas oublié, on parle du vin biodynamique, hein. Vous voyez ce que vous buvez quand vous buvez des trucs comme ça? Si vous étiez à l'intérieur de son ventre, vous sentiriez à l'odeur le courant des forces de vie s'écouler des cornes vers l'intérieur. Ça, c'est quand même très improbable qu'on se trouve dans une vache. Si, par malheur, On a fait le nécessaire pour se trouver à l'intérieur de la vache. Je ne suis pas sûr qu'on conserve les capacités de sentir avec son nez, les capacités olfactives, des courants de force de vie qui s'écoulent des cornes vers l'intérieur. Mais ça doit marcher. Ça marche aussi avec les sabots, qui jouent un rôle semblable, nous dit-il. Alors, notre fumier spirituel, c'est une expression de Steiner, et elle apparaît dans la conférence du 12 juin 1924. Il parle du fumier spirituel qui régénère, féconde et nourrit le sous-sol sur le principe homéopathique des petites dilutions qui sont chères à Samuel Hahnemann, qui est l'inventeur de l'homéopathie. Alors, je vais vous donner des recettes. On va être à Master Chief pour ceux, ou Chef, pour ceux qui veulent noter. Il faut trouver des cornes, nous dit Steiner. Il faut choisir des vaches du lieu, pas aller chercher des vaches étrangères. Parce que, nous dit-il, les forces des cornes provenant d'autres bêtes étrangères au pays peuvent entrer en conflit avec les forces attachées à la terre de ce pays. Une vache d'ici. Des Normandes en Normandie et pas des vaches hollandaises. Peu importe l'âge, nous dit-il, mais pas trop jeune, pas trop vieille. C'est comme le fût de canon, hein, on ne donne pas l'âge, mais pas trop jeune, pas trop vieille. Alors il nous dit aussi, sans craindre la contradiction, je ne parlerai même pas du ridicule, il dit qu'on peut réutiliser ses cornes 3 ou 4 fois. Bon, on peut réutiliser les cornes 3 ou 4 fois. Mais il exige des cornes, citation, aussi fraîches que possible. On se dit, tiens, 3 ou 4 fois, et elles peuvent rester fraîches quand même. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui fait que si elles sont fraîches, on les utilise, on les jette. Mais si on les garde, elles sont plus fraîches. Faut choisir, fraîche ou pas fraîche. Lui, il pense qu'on peut avoir fraîche et pas fraîche en même temps. Il faut, souvenez-vous, en prenant vos notes, éviter les cornes de bœuf ou de taureau. Seule la vache est licite. Pas licite, c'est le mot que j'utilise, je dis pas licite, mais il faut utiliser les cornes de vache. Elles devront avoir entre 30 et 40 centimètres. Là aussi, 29 c'est trop tôt, 41 c'est trop tard, c'est 30-40 centimètres. Pour réutiliser les cornes, si vous avez envie de ne pas les perdre, parce que c'est vrai que ça se trouve pas sur le sabot d'un cheval, les cornes, vous pouvez les réutiliser, il suffit alors de les placer dans une caisse au côté rembourré avec de la tourbe. Si vous utilisez du fumier de cheval, et dans une corne de vache, parce que vous allez voir, on tartine le fumier dans la corne, il faut prendre soin de l'entourer avec des crins de cheval. Normal, fumier de cheval, crins de cheval. Il faut bourrer la corne du fumier de la vache et l'hiver, l'enterrer dans un sol pas trop sablonneux. Donc c'est pareil, pas trop, pas trop peu. Il nous dit également entre 50 et 75 centimètres. Si c'est 48, ça rate. Si c'est 76, ça marche pas. Il dit ainsi, citation, « Nous conservons dans celle-ci les forces que la corne de vache avait l'habitude d'exercer à l'intérieur même de la vache, à savoir réfléchir l'éthérique et l'astral. » Suivez toujours ? Vous êtes sorti de la vache, donc. L'hivernation, nous dit-il, permet de vivifier le contenu de la corne. On obtient alors une capacité de fertilisation extraordinairement concentrée et vitalisante. Vous déterrez, vous sortez le fumier, et il ne sent plus. Les suivis, hein, fumier dans la corne, corne dans la terre, vous sortez la corne, ça ne sent plus, il n'y a plus de fumier. Mais, il n'y a plus d'odeur. Il y a là des forces énormes, tant astrales qu'éthériques. Bon, faites attention. Ça brûle. Il faut diluer le fumier dans l'eau. Une corne pour un demi seau d'eau. C'est suffisant, nous dit-il, pour traiter 1200 mètres carrés. Même chose, hein, 1200. C'est un demi seau d'eau. Si c'est un tiers, ça le fera pas. Si c'est trois quarts, ça le fera pas non plus et ça va rater. Un demi seau d'eau. Si vous posez la question, c'est combien le seau d'eau? Parce que ça peut être un seau suisse. Il doit y avoir un seau suisse qui fonctionne, mais donc c'est un demi-seau d'eau et une corne. Vous remuez l'eau dans un sens avec un puissant tourbillon. Il faut que le tourbillon touche le fond du récipient. Et quand le tourbillon touche au fond du récipient, hop, il faut inverser soudainement. Vous avez compris? On tourne, ça fait un gros cylindre, un vortex. Quand le vortex touche au fond de la bassine, le seau, pardon, suisse, vous faites le sens inverse. Vous avez, à ce moment-là, une eau dynamisée. Pas rien. C'est comme l'eau de baptême. Elle est dynamisée. Ceci dit, il faut remuer pendant 1 heure. Pas trop peu, etc. À la main. Pas de moteur. Trop simple. Parce que quand vous faites ça à la main, eh bien, vous transmettez des informations à l'eau. Donc quand vous tournez pendant 1 heure, vous pouvez avoir mal dans le bras, etc. Mais vous informez également votre eau. Parce que votre corps astral lui dit des trucs à l'eau. Et vous pouvez aussi inviter les amis et la famille le dimanche, etc. C'est lui qui dit, hein. Moi, je suis pas drôle, hein. Je vous dis juste ce que vous obtenez à ce moment-là, une eau dynamisée. C'est un liquide astral éthérique. Après, pulvérisé, comme on dit dressé, vous savez, chez Master Chief. Et vous obtenez à ce moment-là des fruits et légumes dignes de l'Éden. Alors, vous pouvez faire la même chose, non pas avec une eau dynamisée, mais pour le coup avec de la pierre, et vous utilisez du quartz pilé comme de la farine. Il faut enterrer l'été, il faut déterrer à l'automne, il faut conserver jusqu'au printemps, il faut retirer le contenu, et vous prenez, citation, « la valeur d'un petit pois ». Il y a des gros petits pois, il y a des petits petits pois, il y a des moyens petits pois, mais là, la valeur d'un petit pois. Et il ajoute « peut-être même suffira-t-il de la valeur d'une tête d'épingle ». Si vous êtes cuisinier, ça marche pas, hein, parce que si vous avez la valeur d'un petit pois ou une tête d'épingle, vous pouvez rater votre soufflet, là. Mais c'est pas grave. Valeur d'un petit pois ou valeur d'une tête d'épingle. Il faut verser ces milligrammes de poudre dans un seau suisse, le fameux seau suisse, tourner, inverser pendant une heure, pulvériser les plantes, etc. Les agriculteurs qui utilisent la biodynamie font ça. Moi, j'ai cru que c'était caduque un peu et que c'était pour rire. Pas du tout. Et quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit, mais tout ça, ça s'appelle de la bouse de corne. La bouse de corne, elle sollicite le sol et donc le système racinaire, on édifie la structure du sol, on favorise l'activité microbienne, on favorise également la formation d'humus, l'absorption racinaire, la rétention d'eau, etc. Là encore, on peut imaginer qu'il y a un obstacle épistémologique et ce qu'obtiendrait l'agriculture biodynamique ne serait pas à mettre en relation avec ces rites, ces rituels de pensée magique, et vous allez voir, on n'est pas arrivé au bout, mais ce serait à mettre en relation avec le simple fait que quand on commence la biodynamie, on arrête la chimie. Si vous intoxiquez votre sol avec de la chimie parce que vous allez vous mettre à la biodynamie, eh bien vous passez à la biodynamie et vous aurez bien sûr des résultats, mais qui ne seront pas dus à la biodynamie, mais qui seront dus au fait que vous aurez arrêté la chimie. Il ne vient jamais à l'idée qu'il pourrait y avoir une erreur d'attribution dans les effets, certains effets que pourrait obtenir la biodynamie, parce que effectivement, on a arrêté d'intoxiquer un sol, et que quand on arrête d'intoxiquer un sol, on obtient d'autres réactions, et le sol redevient évidemment vivant. Ce serait plutôt à mettre en relation avec l'arrêt de la négativité, et plutôt que par le fait qu'il y aurait la positivité à cette pensée magique. Vous faites donc, comme il y avait tout à l'heure de la bouse de corne avec le fumier, eh bien vous faites de la silice de corne avec ce quartz pilé, et là c'est pareil, 4 grammes par hectare. Et il faut traiter la partie aérienne de la plante sur le principe d'une, citation, pulvérisation de lumière. C'est de la lumière que vous pulvérisez. Donc, voilà. Ça apporte une meilleure qualité lumineuse aux plantes, nous dit-on, la pulvérisation. Ça favorise la vigueur de certaines plantes, ou ça en atténue la luxuriance. S'il faut avoir de la vigueur, on a de la vigueur. S'il faut éviter la luxuriance, on évite la luxuriance. Et surtout, ça prévient les maladies. On est dans la logique homéopathique, puisque Steiner utilise même l'expression « fumure homéopathique ». Et c'est le principe de la grande puissance, des petites substances, mais c'est la grande puissance de l'absence de substances, surtout. Quand il n'y a plus de traces de substances, de traces visibles, mesurables, quantifiables, etc., ça veut dire qu'il n'y a plus de substances. C'est-à-dire quand on traite avec une substance qui n'est plus une substance, que peut-on obtenir sinon des effets placebo ? Donc l'effet placebo de la plante, évidemment, n'existe pas, mais c'est souvent l'incapacité ou la méconnaissance de la causalité réelle dont je vous disais tout à l'heure, qu'elle était à mettre plutôt en relation avec l'arrêt d'un traitement toxique qui favorisait le retour de la nature, plutôt qu'avec cette pratique qui relève de la pensée magique. Alors je vais vous donner 6 recettes intéressantes pour fortifier et tonifier votre fumier. La première, il faut cueillir des fleurs d'Achillée, qui est une plante excellente pour remédier aux maux provoqués par la faiblesse astrale. Faiblesse astrale, Achillée. Sa puissance agit du simple fait de sa présence. C'est-à-dire que la plante est performative aussi. Elle est, donc, elle soigne. Il faut mettre la récolte dans une vessie de serre. Débrouillez-vous, demandez à vos copains, mais une vessie de serre. Pas de porc, hein, de serre. Qu'il faut coudre. La vessie de serre est en relation directe avec le cosmos. Voilà pourquoi c'est ça qu'il faut et pas autre chose. Il faut pendre votre vessie cousue l'été à l'air libre dans un endroit aussi ensoleillé que possible et puis vous la décrochez à l'automne. Il faut l'enterrer à l'hiver de façon assez peu profonde, c'est le canon toujours, de Fernand Reynaud. Et quand vous sortez de la terre, il faut mélanger tout ça à un gros tas de fumier. Le rayonnement agit, citation, le rayonnement agit. Et ce en vertu d'une force de radiation extraordinaire. Bon. Deuxième recette, vous récoltez des fleurs de camomille. Il faut les bourrer pour le coup dans des boyaux de bovidés. Il faut voir des copains il travaille dans la tripe. Hein. Citation. Au lieu de faire comme tout le monde aujourd'hui et d'utiliser les boyaux de bovidés pour faire des saucisses, faisons donc des saucisses avec de la camomille préparée comme il a été dit. Placez ces saucisses dans la terre. Là où la neige prend son temps pour fondre, nous dit-il. La neige attend la neige, disait mon père. Et vous sortez le tout au printemps, et vous incorporez au fumier, vous répandez tout ça dans la terre, et vous vivifiez la terre, vous la stimulez. Et ça permet, là encore, des plus belles plantes et des plantes plus saines. Troisième recette. Il faut récupérer des orties qui attirent naturellement le fer et qui donc, de ce fait, assainissent les sols. Vous les enfouissez directement dans le sol, vous recouvrez d'une mince couche de tourbe et vous laissez passer l'hiver sous terre et l'été également, c'est-à-dire soit une année. Citation, « Mélangeons maintenant cette préparation au fumier, comme nous l'avons fait pour les autres, selon les indications précédentes, et nous donnerons à ce fumier une sensibilité. » J'ai bien dit, c'est lui qui dit, hein, « une sensibilité, de sorte que le voilà maintenant comme doué de raison, et qu'il ne permet pas que quelque élément que ce soit se décompose mal, laisse l'azote s'en aller, etc. » Donc le fumier a une sensibilité, et il insiste, j'ai bien dit, et le fumier est doué de raison. J'ai vu, moi, des fumiers doués de raison, mais je ne dis pas qui. « Ce fumier raisonnable rendra la terre raisonnable. » Quatrième recette, de l'écorce de chêne. Il faut la hacher en miettes, la réduire finement, citation, « Puis, nous prenons sur un de nos animaux domestiques, peu importe au fond lequel, le crâne, la boîte crânienne, pour y verser la préparation que l'on referme, si possibilité, avec des os. » Si possible, avec des os. Prenez votre chien, passe par là, vous le décapitez, paf, vous ouvrez le tout, vous mettez votre chêne haché en miettes, vous réduisez finement, vous y mettez un petit peu d'os, hein, s'il en reste. Vous avez tué tout votre chien quand vous avez coupé la tête, donc vous pouvez trouver des os, c'est facile. Vous enfouissez peu profondément dans la tourbe et vous aménagez une rigole pour conduire l'eau de pluie sur l'ensemble. Il faut obtenir comme un vase pour que ça puisse. Vous laissez passer un hiver et un automne, vous ajoutez au fumier, ça devient une potion magique qui prévient les maladies des plantes. Voilà. Vous avez perdu votre chien, mais vous avez des plantes formidables. Cinquième recette. Il faut coudre des pissenlits dans un mésentère de bovidé. Péritoine, hein. Non, je vous dis, il vaut mieux avoir un copain tripier. Vous placez la préparation en petites boules dans la terre, vous les sortez, citation, elles sont effectivement totalement pénétrées d'influence cosmique. Ça vaut le coup. Vous ajoutez au fumier. Sixième recette, vous confectionnez l'unité. C'est drôle, parce que quand vous lisez comme moi avec la plume à la main, vous relisez, parce qu'à un moment donné, il dit, vous confectionnez l'engrais avec 5 plantes, puis il en donne 6. Alors vous dites, tiens, 5, mais il en donne 6, bon. Alors il y a la valériane, il faut la diluer dans l'eau tiède, vous versez sur le fumier, c'est excellent pour le phosphore. Donc voilà, ce sont des recettes qui vous sont données pour que ça fonctionne, évidemment, très bien. Steiner répond à des questions de paysans, qui posent des questions sur la vessie de serre, normal, on a envie de savoir. Eh bien, Steiner dit que, attention, la vessie de serre doit être celle d'un mâle. Pourquoi ? Performatif. L'ortie doit être dioïque. Donc c'est une histoire de sexe mélangé, etc. Mais allez chercher les sexes de l'ortie. Vous n'êtes pas forcément un spécialiste. C'est pas facile de voir qui est monsieur, qui est madame. Le tas de fumier ne doit pas être trop haut. Toujours la logique du fût de canon. Il doit garder le contact tellurique. Il faut qu'il soit près de la terre. On ne doit pas le contenir avec un appareillage de pierre. Ça trouble. Donc laissez votre fumier comme ça dans le jardin. L'écorce, elle doit être prélevée sur un chêne rouvre, etc., etc. C'est-à-dire que dès que vous avez une question, c'est pas de dire... Trouver vraiment que ça peut marcher comme ça. Pas du tout. C'est, mais monsieur, la vessie, comment on fait pour... C'est pas du tout. Vous n'avez pas l'impression vraiment que la vessie, ça peut être ça marche vraiment? Pas du tout. Ça marche, mais il faut pas oublier que, voilà. C'est-à-dire que, dans le délire, et c'est comme ça dans l'idéologie, si l'idéologie ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'idéologie. Si le communisme, ça marchait pas, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de communisme. Et s'il n'y avait pas eu autant, c'est comme ça que le libéralisme aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que c'est une idéologie, et si le libéralisme ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de libéralisme. Et bien là, si vous n'avez pas assez de, si ça marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de délire. Ça, c'est pour les enterrements, comme vous l'aurez compris, et on va passer maintenant à l'incinération. Et il y a, chez lui également, une théorie des incinérations. Il fait des crémations et des dispersions de cendres, et il dit, voilà, vous avez des mauvaises herbes, dans votre champ, eh bien, ces mauvaises herbes, généalogie, elles viennent de l'énergie des plantes qui est sublimée par le sous-sol. Donc, il faut cueillir les graines des mauvaises herbes, il faut les brûler dans un feu de bois, recueillir les cendres, il dit aussi le poivre, donc vous recueillez les cendres parce qu'elles sont chargées de forts pouvoirs cosmiques. Et vous répandez cette poudre dans le champ à traiter. En 2 ans, les mauvaises herbes sont moins abondantes, et 2 ans plus tard, donc 4 au total, les herbes ont disparu. On n'a pas de preuve que ça se passe comme ça, mais performatif, toujours, c'est ainsi que ça se passe. Pas besoin d'attendre les preuves, car, dit-il, et c'est une citation, « Je suis certain, sûr et certain, que cela marche. Je m'explique. À mes yeux, les vérités de la science spirituelle sont vraies par elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin d'être confirmées par d'autres contextes à l'aide d'autres méthodes relevant de la connaissance sensible. En matière de science spirituelle, nous dit-il, on connaît les choses, citation, parce qu'elles s'imposent intrinsèquement. Sous-entendu parce qu'on y croit. L'agriculture biodynamique, on le voit bien, est un acte de foi. Par exemple, et je conclue sur cette dernière recette, pour que vous puissiez ce soir faire un peu de cuisine, si vous avez des mulots dans votre jardin, il faut en choper un. Ben oui. Et il dit, quand vous avez capturé le mulot, citation, on peut l'écorcher, dépouiller ce mulot assez jeune de sa peau. C'est une vivisection, hein, je vous le dis comme ça, c'est pas question de l'estourbir avec un peu de whisky. Vous arrachez la peau du mulot vivant et il faut faire cette vivisection, attention, à l'époque où Vénus est dans le signe du scorpion. Faites attention, hein. Vous brûlez de la peau de cette bête sacrifiée, vous récupérez les cendres dans lesquelles, citation, il reste la force négative qui s'oppose à la force de reproduction du mulot. Vous répandez ensuite le poivre ainsi obtenu, comme il dit, à partir de la peau d'un mulot écorché. Citation, on peut agir à dose encore plus homéopathique, on n'a pas besoin d'une assiette à soupe remplie de poivre à ras-bord. Normal. Il affirme également, attention, ces animaux ont du toupet. Je ne sais pas si vous connaissez le mulot, mais le mulot a du toupet. Ah oui. Il recommence à se montrer dès l'instant où l'épandage du poivre a laissé des trous à certains endroits. Là où il n'y a pas de poivre, le mulot refait son nid. Vous pouvez tweeter. Là où il n'y a pas de poivre, le mulot refait son nid. Un interlocuteur dit, mais comment est-ce qu'on répartit la cendre sur le champ? Il dit, on peut vraiment procéder comme quand on saupoudre quelque chose de poivre. Et puis, c'est assez extraordinaire, parce que pour conclure, il nous dit, tout ça marche, évidemment. Mais si votre voisin ne le fait pas, ça marchera pas. Donc, pile, je gagne, face, tu perds. C'est pareil avec la psychanalyse. Si ça marche pas, c'est parce que vous n'avez pas cru que ça marcherait. Freud lui-même savait que ça marchait, mais vous, comme vous voulez pas y croire, ça marche pas. Eh bien là, c'est pareil. Si vous faites ça avec les mulots, mais que, comment il dit, ils ont du toupet. Donc comme ils ont du toupet, ils reviennent. S'ils reviennent, eh bien, ça n'est pas parce que la pulvérisation homéopathique ne fonctionne pas, c'est parce que votre voisin n'a pas fait la même chose. Et de fait, le mulot du voisin et le museau du champ d'à côté, bon, c'est vrai qu'on ne sait pas quand on est mulot qu'on est sur le champ de machin qui a été traité ou sur le champ de bidule qui ne l'est pas. Et effectivement, on peut aller sur le terrain d'à côté. Donc, ça marche toujours, sauf quand ça marche pas. Mais quand ça marche pas, c'est la faute du voisin. Il souhaite donc que lui, à ce moment-là, un enseignement ésotérique de cette théorie. On sourit, mais il y a des anthroposophes. Il y a des écoles anthroposophiques, il y a des pharmacies anthroposophiques, il y a des médicaments anthroposophiques, ça existe partout sur la planète. Quand il s'agit de faire un mauvais vin, c'est pas grave. Vous savez pas, quand vous buvez du vin biodynamique, que vous buvez du poivre de mulot, que vous mangez de la bouse de corne, que vous mangez de, enfin, toutes ces choses-là, c'est pas bien grave. Ça fait juste du mauvais vin. Mais comme les gens y croient, ils estiment que c'est un vin sublime, mais je pense que par ailleurs, ça produit des effets terribles. Des effets terribles. Voilà pourquoi, en forme de parenthèse, mais tout de même, je souhaitais qu'on puisse voir les méfaits d'un usage possible du vitalisme. Le vitalisme n'est pas une garantie de bonne intelligence ou de saine intelligence. Il y a effectivement des usages du vitalisme qui sont des usages terribles, des usages parfois même dangereux. Donc voilà, vous repartez en ayant appris des choses que vous ne saviez pas. Vous savez maintenant pourquoi les vaches n'ont pas de bois et pourquoi les cerfs n'ont pas de cornes. Vous savez que quand vous êtes dans le ventre d'une vache, vous pouvez sentir l'influx vital qui passe par les cornes du dehors vers le dedans et que vous sentez olfactivement ce qui se passe. Si l'un ou l'autre effectue un jour l'expérience, j'aimerais bien qu'il me donne des explications. Je suis toujours partant pour une méthode empirique. Je vous remercie. Alors, Steiner, il y a une collection, il y a 2 mètres de rayonnage de Rudolf Steiner avec une maison d'édition qui est dévouée à la cause, les éditions anthroposophiques romandes. C'est en Suisse, ça coûte très cher en plus, mais vous avez tout ça en long, en large et en travers. Évidemment, quand on dit ces choses-là, les gens qui font de la biodynamie sont pas contents. Mais je leur dis, mais moi je suis preneur d'informations. Vous croyez vraiment que ça marche? Ils me disent, mais moi je l'ai vu. Donc évidemment ça marche. Et ils sont capables de m'expliquer qu'un champ qui a été traité de manière biodynamique, donc vous voyez ce que c'est, vous prenez de l'eau, vous tournez dans un sens inverse, vous faites ça pendant une heure, vous pulvérisez de manière homéopathique, et on vous explique par exemple que l'orage évite votre champ. Donc quand on vous proposera dans un grand restaurant des vins bio logiques ou des vins bio dynamiques, vous saurez que ça n'est pas exactement la même chose, et vous saurez que théoriquement, il y a dans la biodynamie, outre l'aspect sympathique, écolo, dans le vent, etc., une doctrine, une idéologie, et quelle est celle-ci ? La doctrine de Steiner que je vous ai présentée ce soir. Il y a cet autre livre de lui, toujours chez le même éditeur, « Rythme dans le cosmos et dans l'être humain ». Il y a une autobiographie, c'est traduit de l'allemand, et c'est aux éditions Alice Sauerwein. Ça, je peux le prêter éventuellement, parce que je pense que c'est pas quelque chose qu'on trouve facilement. Une vie, au cas où vous voudriez savoir qui il est véritablement, mais une vie de Hahnemann, qui est l'inventeur de l'homéopathie. Et pour vous donner l'esprit dans lequel on écrit sur le fondateur de l'homéopathie, le titre de l'ouvrage, c'est « La vie surhumaine » de Hahnemann, fondateur de l'homéopathie, aux éditions du Parthénon. Et puis, tout de même, ce vieux volume, un peu cassé, mais qui était celui de ma classe terminale, de Gaston Bachelin, grand philosophe, grand épistémologue, la formation de l'esprit scientifique qui permet de voir comment des méthodes n'en sont pas, comment il y a des anti-méthodes ou des contre-méthodes, et comment on devrait pouvoir aujourd'hui faire l'épistémologie d'un certain nombre de sciences, toutes les disciplines, philosophie, évidemment, faudrait commencer par ça, l'histoire, la géographie, etc., savoir ce que sont les conditions objectives de la connaissance, voire les conditions de la connaissance objective. Bachelard est quelqu'un qui a écrit sur les éléments et qui écrit dans le sens d'une poétique, une poétique des éléments, et c'est nettement plus intéressant que cet occultisme des éléments de Steiner. Voilà, vous savez tout.
Bon, dis donc, camarade.
Bernard, où es-tu ? À ma gauche.
Ouais, je suis là.
Ah bah oui, à ma gauche.
Bah, écoute, je suis un peu déboussolé avec tout ce que tu as raconté là. Parce qu'on va trouver des vaches écornées. Bah, d'abord, tu as parlé de l'albacore. Là. Alors, l'albacore, ce n'est pas le thon blanc, hein, c'est le thon rouge. Le thon blanc, c'est le germont.
Tu as raison.
Non.
Dont acte.
Je suis d'une famille
de poissonniers.
Mes aïeux, non, mes aïeux ont pêché le thon là-bas.
Je sais ça, oui.
Bon. Et puis, qu'est-ce que tu as dit encore ? Tu as dit, ah oui, alors l'histoire de faire des façades avec... du verre. Très bien. Sauf que derrière tout ça, il y a la clim. Parce que j'ai vu, par exemple, le conseil général de Rodez, tout en verre. Il fait pas chaud là-haut. Hein. L'été. Alors j'ai été les voir. J'ai dit, mais comment vous faites là ? Alors d'abord, ils mettent des rideaux. Derrière les carreaux, là. Ils mettent des rideaux. Et puis la clim à fond, quoi. Ben, j'ai dit, ben, c'est ça. Alors bon, je sais pas. Je veux parler simplement de ce que tu dis, là, l'anthroposophie, c'est ça ?
Oui.
L'anthroposophie. Mais je voulais savoir si tu as rencontré des politiques qui, par exemple, buvaient du biodynamique. Ça serait intéressant de savoir ça. Je me demande si Macron n'a pas bu. Et puis, Comrie aussi. Parce que, ben, ça pourrait être transcendant, comme tu dis, on sait jamais, quoi. Mais je voudrais savoir si tu avais rencontré des cocos comme ça, parce que moi je te dis, je boirai jamais de ton vin là biodynamique là, parce que déjà dans la bouche, dis donc, tout ce que tu dis qu'avec, on retrouve peut-être bien des morceaux de pio de comment
des mulots.
Alors bon, alors je voulais savoir si tu as rencontré des gars qui seraient dans la politique et qui auraient eu cette théorie là. Je ne sais pas si Ségolène Royal a mangé des mulots, mais mais bon, alors voilà ce que je voulais te dire. Bon, bah, je suis un peu déboussolé avec tout ce que tu as raconté là, parce que dis donc, bah, tu te rends compte d'un bazar pour arriver à avoir du vin. Mais les gars, ils arrêtent pas, ils arrêtent pas, parce que comment ils peuvent faire avec leur stuo d'eau, là, et tourner dans un sens, tourner dans l'autre, éparpiller, et en ailleurs, et dépouiller les mulots, et puis trouver les cornes et tout ça, ben, je ne sais pas comment ils vont.
Alors... pas te répondre sur Ségolène, je ne sais pas ce qu'elle boit, mais les hommes politiques, je les fréquente pas, ils ne me fréquentent pas non plus beaucoup, mais je pense que, je sais pas, enfin après ça, je sais pas s'il y a une sociologie, c'est plutôt une sociologie bobo, la sociologie du vin biodynamique, parce que Il y a du pouvoir d'achat aussi, c'est-à-dire on sait très bien aujourd'hui que le capitalisme est plastique, ça c'est ma théorie, je pense que le capitalisme ne naît pas, comme Marx nous dit, dans l'époque qui est la sienne, avec cette idée que puisqu'il naît, il peut mourir et qu'on peut l'abolir, je crois hélas que c'est la modalité de la production depuis que l'homme est l'homme, et que la plasticité du capitalisme aujourd'hui, après avoir été financier, après avoir été industriel, après avoir été féodal, après avoir été etc., il est du côté de l'écologie. On sait très bien aujourd'hui que les gens sont tous convaincus du fait que les produits sont toxiques et dangereux.
Plein d'indices. Ça, je suis d'accord.
Donc, il y a plein de gens qui se disent, si on achète du bio, on est dans une petite logique narcissique, on économise sa santé, on va vivre plus longtemps, on va pas avoir de cancer, et ils ont le pouvoir d'achat. On sait bien que c'est beaucoup plus cher le bio, que c'est évidemment parce que les productions industrielles sont faites en quantité et en nombre, qu'on peut éventuellement avoir des produits beaucoup moins chers quand ils sont fabriqués de manière industrielle. Donc, c'est une résistance d'une caste, on le sait très bien, je veux dire, les gens pauvres mangent mal et sont plus souvent malades. L'obésité, le diabète, enfin, l'espérance de vie est moindre chez les gens pauvres, pour une raison bien simple, c'est qu'effectivement, ils se nourrissent moins bien, beaucoup plus de sucre, beaucoup plus de conserves, avec des additifs, avec des conservateurs et des sucres dans des nourritures comme les petits pois ou je sais pas quoi, enfin, qui n'en ont pas forcément a priori besoin, mais parce qu'on fabrique des habitudes au sel, des habitudes au sucre pour fabriquer des accoutumances. Donc on sait très bien aujourd'hui que dans une espèce de logique de distinction, pour utiliser le vocabulaire de Bourdieu, qui n'a pas parlé, que je sache, de la biodynamie, parce que je pense que quand il écrit la distinction, ça reste quand même très 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 limité. Il parle pas de la biodynamie, mais si on fait une lecture bourdieusienne du vin biodynamique, à l'évidence, on rentre chez les bobos, chez les bourgeois bohèmes, chez les gens qui ont un pouvoir d'achat qui leur permet d'acheter ce genre de vin, et parce qu'on se distingue, parce que tout le monde achète les mêmes vins, et que là, d'un seul coup, on est dans le vin biodynamique. Je dis bien biodynamique, hein, le vin biologique, c'est pas la même chose, entendons-nous bien. Et donc, les hommes politiques, je sais pas s'ils ont une consommation particulière, mais on voit bien que de toute façon, quand on devient homme politique, même si on a été soudeur au Parti communiste et qu'on devient député ou sénateur, on fait partie de l'élite. On a beau dire qu'on est communiste ou je sais pas quoi. Donc on boit, on mange les choses que l'élite mange et boit. C'est-à-dire on fréquente les mêmes restaurants, on mange à peu près les mêmes choses, et puis surtout on a les mêmes goûts et les mêmes dégoûts. Quand Bourdieu dit, par exemple, que la bourgeoisie mange des sushis mais pas le prolétariat, et que le prolétariat mange de la tête de veau, par exemple, ou du pot-au-feu. Alors, c'est pas toujours vrai, bien sûr. On trouvera toujours un prolétaire qui aime bien les sushis, les sashimi, etc. Et puis, un Chirac qui nous dira qu'il aime la tête de veau. Il n'avait pas lu Bourdieu, mais il avait compris que c'était utile, d'un point de vue électoral, de dire qu'il préférait ça...
Chirac, il avait déjà dit... Il avait parlé du mulot, déjà, lui. Il avait confondu la souris...
Avec le mulot. Tu as raison.
Ouais. Il était en avance, déjà.
Donc oui, il y a une pratique alimentaire qui est une pratique sociale et sociologique, et le vin bio en fait partie. On voit bien d'ailleurs quand on fait son marché qu'il y a effectivement des étals où on voit les bobos le dimanche matin et qui ont la possibilité de payer plus cher les fruits, les légumes. Ça paraît évident qu'effectivement c'est un goût de classe, parce que tous les goûts sont des goûts de classe. On voit bien qu'on fait pas par hasard du golf, ou qu'on fait pas par hasard du foot. Qu'on n'aime pas par hasard le cyclisme ou l'haltérophilie. Donc il y a effectivement des déterminismes sociologiques à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on est, à tout ce qu'on mange, à tout ce qu'on boit, la façon de s'habiller, de se vêtir, les tissus qu'on porte. Encore une question ou non, c'est l'heure. Eh bien, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.
C'était Brève encyclopédie du monde de Michel Onfray. Première année, Cosmos. Prise de son, France Bleu Basse-Normandie. Collaboration technique, Centre dramatique national de Normandie. Réalisation, Anne-Pascale Devillon. Samedi prochain, fixez les vertiges vitalistes.